Les Voix de service magazine, mercredi le 20 décembre 2017. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de magazine. Ici Daniel Lachance, à l'absence d'Isabelle Falardeau aujourd'hui.
Eh oui!
Elle a décidé de prendre un congé des fêtes anticipé. J'ai avec moi en studio Serge Bradet.
Bonjour, bonjour!
Ça va bien aujourd'hui?
Très bien, très bien.
Bon, oui, la voix est en forme, pas de problème de bronchite, pas de problème.
Non, non, pas pour l'instant, là. Bon. J'en aurai peut-être une dans le cadre de l'hiver. On en a tous une à un moment donné.
Ah, on va pas le souhaiter.
Non, 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 non.
Donc, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, ça?
Moi, il y a la presse plus, vraiment, où j'en avais parlé la semaine dernière.
Ouais, là, c'était... Une d'or,
oui, 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 oui. Cette semaine, il y avait un article intéressant. Un Québec en mutation. Donc, on passe de 1900 à 2012. Des grands moments marquants qui ont marqué le Québec. Et dans la presse, plus de dimanche, de l'autre dimanche, il y a une semaine, il y avait, je vais vous parler des aires d'Europe et d'Amérique au niveau de l'architecture. La montagne du Mont-Royal, c'est un emblème de Montréal. Et également d'autres parcs de Montréal, Parc La Fontaine, Parc Angrillon, etc. Montréal, berceau de culture. Une ville riche de gens également. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous parler de tout ça, bon, mais ce sera en réserve pour le retour. <t'sais>.
J'ai compris le message, je vais essayer de parler moins.
Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, non.
De mon côté, il y avait un article que je voulais lire depuis quelques semaines et je pense que je vais pouvoir le lire aujourd'hui. Je ne suis pas certain, je me demande si quelqu'un n'a pas lu. Mais
ah oui?
Il s'agit d'un article qui est paru aussi dans La Presse Plus, mais qui aurait aussi, peut-être pas le même article, mais il en aurait été question dans le journal L'Itinéraire. C'est Paul Carniello et Siou engagés à créer. Donc, je vais vous parler d'un nouvel album. Mm-hmm. Et je vais peut-être aussi vous parler d'un album mystérieux de Prince qui aurait refait surface.
Ah oui?
Oui, on va voir ça tantôt, probablement dans la deuxième partie de l'émission. Donc, comme je vous disais, un article que j'ai trouvé dans La Presse Plus, et je ne suis pas certain, je pense qu'on en a déjà parlé ici, mais on n'a peut-être pas lu le même article. De toute façon, je trouvais que c'était le temps des fêtes et j'avais le goût de lire. Un article qui est paru dans La Presse Plus, édition du 9 décembre. Non, ça ne fait pas si longtemps, finalement. J'avais raison, ouais. Ça fait à peu près deux semaines. Intense Cité est un album composé des mots du Camelot, de l'itinéraire Sioux, ainsi que de la musique et de la voix du chanteur Paul Carniello. Ce dernier a donné vie au poème à la suite d'une rencontre fortuite avec le parolier il y a maintenant 2 ans. L'album est offert tout le mois de décembre à l'achat du magazine L'Itinéraire. Mm-hmm. Donc ça achève le mois de décembre, on est rendu le 20 aujourd'hui, c'est encore le temps. Mm-hmm. Sioux, de son vrai nom Sylvain de Longchamp, poète, parolier et camelot pour l'itinéraire depuis 3 ans, explique qu'il a parfois de la difficulté à rassembler et à organiser ses idées. Son trouble anxieux généralisé, dont il parle ouvertement et avec lucidité, est doublé d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH, qu'on entend souvent. Hein? Mm-hmm. Je pense qu'il y a plein de monde qui se disent TDAH aujourd'hui.
Oui. Moi, ça a l'air d'une... j'aime pas le mot épidémie, mais ça sort,
c'est...
on entend partout.
Ouais, c'est comme si on venait
de découvrir. Je suis TDAH, puis... Mais moi, je me demande si je suis pas un peu TDAH.
Probablement, je voulais vous en parler, mais...
Ah ben merci.
Ça sera une discussion une
merci,
autre fois.
Merci, c'est gentil.
Donc, trouble de l'attention avec hyperactivité et d'un traumatisme crânien causé par un accident de vélo qui a exacerbé le désordre de son esprit. Assis dans un divan du studio de Paul Carniello, Sioux se rappelle ses moments les plus difficiles. Il y a 3 ans, mon anxiété était à son pire. Je n'étais même plus capable de payer mon loyer ou de me chercher un logement abordable. C'était trop me demander. Donc, quand on arrive à ce point-là, la vie doit être assez pénible.
Ah, c'est dur.
À l'époque, il avait entendu parler d'un programme de l'itinéraire lié à la santé mentale. Il n'existait toutefois plus à son arrivée. On lui a proposé d'être camelot, un job qu'il croyait réservé aux personnes dans la rue, un a priori partagé par beaucoup. Moi aussi, mm-hmm. j'avais l'impression que pour être camelot, bon, mm-hmm. c'était un préjugé probablement.
Ben, bon, ouais, c'est bon, une idée, une image comme ça.
Ça vaut la peine à l'occasion de se faire remettre.
Ouais.
De façon logique, ils m'ont répondu qu'ils n'attendaient pas que je sois dans la rue pour me venir en aide, relate-t-il, et c'était certainement là que je m'en allais. Le groupe communautaire L'Itinéraire soutient les personnes exclues du marché du travail traditionnel, ayant connu l'itinérance, la dépendance ou souffrant de problèmes de santé mentale. Socialement, je n'ai jamais abouti à rien, dit Siou, le regard triste. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ayant eu son diagnostic tardivement, il est passé par des périodes très troubles avant de parvenir à se redresser récemment. La création, le dessin et la poésie l'ont aidé dans ce cheminement. Ce sont les seules choses qui peuvent m'allumer, m'aider à avancer et à faire de quoi de ma vie, explique le parolier. Paul Carniello et son projet d'album ont surgi dans l'équation un an après que Siou a rejoint l'itinéraire. Dans le cadre des troisièmes états généraux de l'itinérance au Québec, organisés par le réseau Solidarité Itinérance en 2015, des camelots étaient jumelés à des professionnels afin de créer des chansons. Plusieurs textes ont été proposés à Carniello. « J'ai vu ceux de Siou et j'ai tout de suite aimé son style », se rappelle-t-il. Après avoir composé une première chanson à partir d'un poème de Siou, il a voulu pousser ça plus loin et l'a recontacté pour qu'il lui envoie tous ses écrits dans le but de les réunir sur un disque. « J'aime beaucoup collaborer, mais c'était la première fois que j'utilisais les textes de quelqu'un d'autre dans un de mes projets », note-t-il. Pour sa part, Siou s'étonne d'arriver à travailler pas mal lorsqu'il crée, lorsqu'il est dans son élément. J'écris pour moi, ce ne sont pas des sujets à mes yeux, c'est mon vécu. Mon trouble d'anxiété, par exemple, qui m'emporte et me bloque. Il y a un conflit en lui et dans ce qu'il écrit, observe Carniello. Le compositeur dit apprécier particulièrement les textes de Siou pour la dichotomie de l'engagement social confronté à la souffrance personnelle de l'auteur. Une très belle balance qui lui permet d'éviter le piège de la morale. Malgré les thématiques sombres de la plupart des paroles de Siou, Intensité est dansable, note Paul Carniello, qui a tenté d'y apporter de la joie grâce à des intonations reggae. Je pensais au colloque, à Tassez-vous de là, par exemple, un texte dur à écouter, mais une chanson fun, illustre Carniello. L'auteur-compositeur-interprète est reconnu pour son engagement, lui qui s'est impliqué avec l'ATSA, action terroriste socialement acceptable, mm-hmm. et a été porte-parole de l'organisme Le Sac à dos qui vise l'insertion sociale et économique des personnes en situation d'itinérance. À mes yeux, c'est une obligation des artistes. Il y a tout le temps quelqu'un qui met un micro devant toi, qui te donne une chance de parler, alors autant parler de quelque chose d'important, comme la lutte contre la pauvreté. Le projet d'album représente pour lui un moyen d'attirer l'attention sur la problématique de l'itinérance, sur le groupe communautaire L'Itinéraire et de permettre aux camelots de vendre plus de magazines. L'itinéraire a d'ailleurs une signification toute particulière pour Paul Carniello. Alors qu'il a grandi dans une communauté anglophone et a abandonné l'apprentissage du français après le secondaire, sa position sur la langue officielle a changé lorsqu'il a déménagé au centre-ville de Montréal. « Je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû lâcher, dit-il. Alors j'ai voulu recommencer à apprendre le français et je l'ai fait en lisant L'Itinéraire. »
Ben oui.
Un usage qu'on n'aurait pas soupçonné. C'est donc une boucle qui se boucle avec la sortie de son 5e album en français en collaboration avec l'organisme. C'est poétique, je trouve. C'est grâce à L'Itinéraire que je compose en français. C'est juste logique que ça arrive. Pour Siou, l'organisme a été d'une précieuse aide en lui évitant de tomber encore plus bas lors des pires moments de sa vie, ce dont il se dit incroyablement reconnaissant. Il est également reconnaissant de l'arrivée de Paul dans son existence. « J'ai toujours voulu faire ce qu'il fait. Pour moi, c'est un rêve d'adolescent de vivre de l'art, dit-il. Mais j'ai toujours été bloqué, ça a toujours été inaccessible à mes yeux. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est beaucoup. » Et peut-être que je vais ensuite pouvoir voler de mes propres ailes. Depuis le 24 novembre, l'album est offert sur toutes les plateformes, les plateformes de téléchargement, et on obtient un exemplaire à l'achat d'un magazine L'Itinéraire. Je ne veux pas que les gens pensent que c'est juste pour une bonne cause, car ce n'est pas ça du tout, déclare Paul Carniello. C'est de la bonne musique, c'est une belle rencontre et un bon album. Alors Serge, par quoi on commence? On parle de Montréal, mais
oui,
par quel
bout? C'est-à-dire qu'on va parler du Québec.
Du Québec.
Oui, un Québec en mutation, c'était dans la presse de ce dimanche, un article de Jean-François Venn, une collaboration spéciale. Alors, des personnalités influentes, des mouvements sociaux à la source de grands changements, des crises restées gravées dans les mémoires, sans ces personnes et ces événements, la société québécoise ne serait pas la même aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qui marque une société. Le 6 décembre 1900, c'est la date à laquelle la première caisse d'épargne populaire nord-américaine est fondée à Lévis par...
Monsieur Desjardins.
Alphonse Desjardins.
Alphonse, je cherchais son
Alphonse. Et sa femme. Dorimène, oui, les deux. Alphonse Desjardins s'inquiétait de voir les banques canadiennes, exclusivement anglophones, refuser des prêts aux francophones. Ces derniers devaient souvent se tourner vers des usuriers qui imposaient des taux d'intérêt exorbitants. On pense à Séraphin Poudrier, les histoires des pays d'en haut, là. De son vivant, Alphonse Daudet participera à la fondation de 163 caisses. Aujourd'hui, le mouvement Desjardins compte plus de 7 millions de membres, presque tout le Québec est dans ça, et clients, 47 655 employés, et risqueriez-vous un chiffre pour les actifs?
Non, ça, j'ai aucune
Maurice,
idée de l'ampleur.
Non plus. 258 milliards.
Milliards?
De dollars en actifs, oui.
Quand même.
Ouais, ouais, c'est énorme. Hein,
mais déjà, le complexe Desjardins, c'est beaucoup.
Ouais. Ensuite, une autre période, une ère marquante, l'ère Duplessis.
Mm-hmm. Pas connue, là, mais...
Oui. Le 17 août 1936, l'Union nationale prend le pouvoir après 39 ans de règne des libéraux. Depuis trois mois, le chef de l'Union nationale, Maurice Duplessis, attaquait sans relâche le gouvernement libéral, l'accusant de corruption et de gaspillage, ce qui devait provoquer la démission du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau. Un petit aparté, il y avait une histoire de culottes. Il y a un ministre, Vautrin, je pense, qui avait, s'était fait offrir des culottes par
un... ça, c'était de la corruption.
Par un entrepreneur. Et là, ça a fait le tour de la province, les culottes à Vautrin.
C'est comme si ça vient se faire prendre des culottes baissées.
Un peu, je pense. L'Union nationale perd le pouvoir en 1939, puis les regagne en 1944. S'amorce alors une période qualifiée de grande noirceur. Maurice Duplessis est mort en fonction le 7 décembre 1959 à Shefferville. L'arrivée de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage en 1960 marque le début de la Révolution tranquille. La femme a maintenant droit de vote et d'éligibilité, c'est en 1940 pour le provincial. Voici le titre qui apparaît à la une de la presse le 26 avril 1940. La veille, les Québécoises avaient finalement obtenu le droit de vote. Marie-Claire Kirkland-Casgrain sera la première femme élue à l'Assemblée nationale en 1961. Elle fera adopter en 1964 la loi sur la capacité juridique de la femme mariée qui permettait aux femmes de gérer leurs finances et d'occuper une profession sans permission de leur mari. Au municipal, les femmes obtiendront le droit de vote progressivement entre 1968 et 1974. Au fédéral, ce droit leur a été attribué en 1918. La petite histoire encore. Madame Kirkland-Casgrain, quand elle était élue, c'était la première fois qu'une femme était pour siéger à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu un débat, peut-être pas un débat parlementaire, mais à savoir, est-ce qu'elle devrait porter un chapeau en siégeant comme députée?
Parce que les hommes portaient un chapeau.
Non, mais les femmes devaient porter un chapeau quand elles sortaient de la maison.
Oui. Non, je pensais que c'était seulement à l'église. En entrant à l'église, les femmes devaient porter un chapeau.
Ma mère ne sortait pas jusque dans les années. Jusqu'aux années 60, là, début 60. Elle ne sortait pas de la maison sans chapeau. C'était très mal vu. On était pourtant un quartier, on était sur le plateau, nous. On n'était pas à Westmont.
Et la réponse, c'était, elle était obligée ou non?
Non, elle n'était pas obligée. Ça a fait, il y en a qui ont dit, elle devrait porter un chapeau. Alors, le 21 janvier 1948, à 15h précisément, bon. Savez-vous ce qui s'est passé?
Non, pas du tout. J'étais en train de faire autre chose.
C'est l'heure à laquelle le drapeau du Québec est élevé pour la première fois.
OK.
Au sommet de la tour centrale de l'hôtel du Parlement, où flottait auparavant le Red Ensign. Depuis 1946, l'Assemblée législative du Québec demandait qu'un drapeau vraiment canadien soit adopté. Le gouvernement canadien s'y était opposé. Les partisans d'un drapeau québécois ont voulu doter la province de son propre emblème. La croix blanche du Fleur-de-Lys renvoie au catholicisme, évidemment, alors que le bleu peut symboliser à la fois la Vierge Marie ou les blasons des souverains français, selon les interprétations. Et l'hélice blanc, lui, rappelle l'époque de la fondation de la Nouvelle-France sous la monarchie des Bourbons. le lys blanc est l'enseigne des l'emblème des Bourbons.
C'est en quelle année ça?
1940.
OK, parce que le drapeau du Canada est arrivé plusieurs années après.
Oui, ben c'est ça, 60. Parce qu'on dit, c'est ça, dans l'article, on dit que les Québécois demandaient...
Un drapeau canadien.
Un drapeau canadien, puis les Anglais étaient beaucoup plus... Les Canadiens-Anglais étaient beaucoup plus attachés au Red Ensign britannique.
Red Ensign, c'est pas l'Union Jack, là?
C'est-à-dire qu'il y avait... De mémoire, là, il y avait l'Union Jack dans un coin du drapeau.
OK, ah, puis il y avait, oui.
Le reste était rouge avec une armoirie.
C'était comme une colonie anglaise et ben, non pas l'Angleterre.
Oui, ah, ouais, c'est okay, ça. C'est ah, ouais. Et d'ailleurs, ça avait fait un débat en 65, le drapeau canadien, mm-hmm. qui s'est adopté. Et les conservateurs, avec M. Diefenbaker en tête, là, avaient fait une guerre en disant que c'était effrayant. Moi, nous enlever le Red Ensign.
Ouais, tout ce que je me souviens, parce que c'est vague, là, j'étais quand même très jeune, mm-hmm. il y avait eu comme 2-3 propositions. Au début, il y avait un drapeau avec... Oui. Les couleurs bleues et mm-hmm. rouges. Ça mm-hmm. finit par juste rouge. Mm-hmm. Il y avait une proposition où il y avait 3 feuilles d'érable au centre. Ça finit mm-hmm. avec seulement une. Mm-hmm. Je me souviens pas c'était pourquoi les 3.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, je me souviens mm-hmm. de ça. Quand même.
Les retombées sociales de la grève de l'amiante. En 1949, en février 1949, environ 5000 mineurs de la Canadian Jones Manville à Asbestos et à Thetford Mines déclenchent une grève spontanée. Ce conflit de plusieurs mois sera très dur, mais débouchera sur des gains importants pour les travailleurs. Michel Chartrand mm-hmm. appuiera ce mouvement de grève. Ce sera le début d'une action syndicale qui fera de lui un personnage important de l'histoire sociale du Québec. Le bouillant syndicaliste était reconnu oui, pour ses convictions profondes autant que pour son franc-parler.
Jusqu'à la dernière minute aussi,
ah,
je
mon
pense.
Dieu, oui, oui, oui. Je pense que vous vous souvenez aux élections, il s'était présenté aux élections puis il avait été battu là, vers la fin de sa vie puis il avait fait une réplique à Bernard de Rome. Là.
Ouais, ça
vous en souvenez?
Assez,
oui, oui. Il me demandait Rome, c'est votre fête, monsieur. Oh, on va vous souhaiter bonne fête. Il avait répondu, je vais donner une partie de la réponse. Là, il dit, le human interest, ça me fait bip, de Rome.
Ouais, je me souviens qu'on voyait un monsieur de Rome un petit peu mal à l'aise.
Ça a été... Défenseur acharné des travailleurs et des pauvres, il sera président du Conseil central de Montréal. La CNSN de 1968 à 78, il fut emprisonné à plusieurs reprises, mm-hmm. notamment lors de la prise d'octobre. D'ailleurs, le régime Duplessis a vraiment maté cette grève-là. Ils ont été très, très durs.
Ouais, ouais. Ouais.
Révolution dans le milieu de l'éducation. Évidemment, ça a marqué le Québec. Mm-hmm. En 1961, une commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec est instituée. Elle durera plusieurs années et débouchera sur le rapport Parent, du nom de son président, Monseigneur Alphonse Marie Parent, un religieux, qui révolutionnera le milieu de l'éducation. Il mènera à la création du ministère de l'Éducation du Québec, à la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, à la mise sur pied des cégeps, à la démocratisation de l'enseignement universitaire et à une meilleure formation des enseignants.
Les premiers cégeps sont apparus en 68, je pense,
autour de, à peu près, parce que moi, ça je me rappelle, c'est ça à peu près.
68, c'était une grosse année.
Ensuite, en 70, création de la carte soleil. En novembre 70, le Québec se dote d'un système d'assurance maladie publique. L'actuaire Claude Castonguay, qui présida la Commission royale d'enquête sur la santé et le bien-être social de 1966 à 1970, en est l'un des principaux architectes. Il présenta la loi sur l'assurance maladie lorsqu'il devint ministre de la Santé sous le premier gouvernement de Robert Bourassa en 1970. À l'époque, son patronyme a inspiré le surnom de... Castonguette. La Castonguette,
ouais.
Oui, c'est ça. On a longtemps appelé ça la Castonguette. Je pense que ça fait peut-être à un moment donné, la génération, on a pensé à d'autres ministres de la Santé. Là. Mais je dirais peut-être depuis vingtaine d'années, on entend moins ça, Castonguette.
OK, ouais, non.
Mais jusqu'aux années 90, on a entendu ça. Est-ce que j'ai le temps pour un autre?
On va faire une petite pause musicale.
Une pause d'actuel.
Sentier de neige courant la vallée où danse en cortège des sapins gelés. Et rester bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvraient tes cheveux et la lune beige nous rendait heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur. Notre amour jaloux, le sentier de neige courant la vallée, où danse en cortège des sapins gelés. Et rester bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé.
Un classique du temps des fêtes, la volée de castors qui revisitait le sentier de neige.
La volée de castors, c'est ça qu'on cherchait comme qui interprétait cette chanson. On aurait aimé entendre la version des classiques, hein? Mais bon.
Avec Gilles Desclasselles.
Donc, on est de retour des Voix de service magazine, oui. Mercredi le 20 décembre avec Serge Bradet et Daniel Lachance. Serge, on
oui, était quelques rendu là. D'autres événements qui ont marqué le Québec. Évidemment, la crise d'octobre en 70.
Oui, ça, je me souviens.
Ouais, une cellule du Front de libération du Québec enlève le ministre du Travail du Québec, Pierre Laporte, qui malheureusement se retrouvait assassiné. Et cinq jours plus tôt, une autre cellule avait enlevé l'attaché commercial britannique James Richard Cross, qui lui a été libéré. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Qui a dit cette phrase?
Ça devait être René Lévesque.
René Lévesque, oui. À la suite de l'élection du Parti québécois en 76, il remporte 71 sièges contre 26 pour le Parti libéral de Robert Bourassa. Le débat sur la langue, les multiples grèves et le coût faramineux des Jeux olympiques ont fait bien mal aux libéraux. Le PQ lui a rassuré en promettant de ne pas déclarer unilatéralement l'indépendance du Québec. Du français, s'il vous plaît. La Charte de la langue française, la loi 101, est adoptée le 26 août 1977, donc pas tellement longtemps après l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Elle vise à faire du français la langue de l'État québécois et la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Elle crée aussi l'Office québécois de la langue française, dont la responsabilité est de faire appliquer la Charte. Certaines dispositions ont été modifiées depuis, comme on le sait, comme la réglementation, entre autres, sur l'affichage commercial. 59,6%, c'est un pourcentage qui vous dit quelque chose?
Non.
En 1980. Oui. C'est le pourcentage remporté par le non lors du premier référendum.
Ah oui, tant que ça.
Oui,
le deuxième, c'était plus serré. Je me souviens pas que le premier avait été...
On va le dire un peu plus loin. Le 29 mai 80, les Québécois disent non à leur souveraineté avec 59,6% des voix. Le non inflige une cuisante défaite au camp du oui, écrit la presse dans son numéro du lendemain. Les négociations constitutionnelles qui suivent mènent au rapatriement de la Constitution et à l'adoption de la Charte canadienne des droits et des libertés en 1982, sans l'accord du Québec. En 1995, à la suite de l'échec des négociations sur l'accord du Lac-Meech, le Parti québécois déclenche un second référendum, perdu de justesse celui-là avec 49,42% des voix.
Et voilà, c'était très serré. Ouais.
50 000 voix. À qui la rue? On est rendu au dernier sujet en 2012. Le budget du gouvernement du Québec de 2011 prévoit prévoit de doubler plus que les droits de scolarité universitaire entre 2012. Slimane, cette phrase-là. je recommence. Le budget du gouvernement du Québec de 2011 prévoit plus que doubler les droits de scolarité universitaire entre 2012 et 2017. Donc, dès février 2012, des regroupements de cégepiens et d'étudiants universitaires lancent une grève générale illimitée. Le 22 mars 2012, plus de 300 000 d'entre eux sont en grève. Les manifestations se succèdent. Le mouvement des carrés rouges s'élargit et se transforme en contestation sociale. Le 4 septembre 2012, le gouvernement libéral est défait par le Parti québécois qui annule la hausse. Voilà.
Ça avait été quand même assez impressionnant. Ces
les manifestations dans la rue partout. Moi, je demeure au centre-ville. À ce moment-là, je suis arrivé là, dans le quartier Ville-Marie. Puis, Seigneur, c'était... T'osais pas sortir de la maison, là. C'était les policiers partout, les hélicoptères.
Oui, je me souviens, nos locaux, à l'époque, étaient situés sur l'Évêque, au coin de Amherst. On était tout près de l'action. Puis, effectivement, je me souviens, certains soirs, j'arrivais ici, il y avait des hélicoptères qui faisaient du surplace au-dessus des édifices. Mm-hmm. Ça avait l'air plus grave de l'extérieur que ça.
Ben, c'est toujours, quand vous allez... écoutez-moi, j'étais à Berlin l'an dernier quand il y a eu l'attentat. C'était tout près de mon hôtel. Mm-hmm. Ben là, évidemment, j'ai reçu un paquet de courriels d'amis. Et ça va?
Surtout qu'on s'éloigne un peu, on n'a pas connaissance.
Mais à part que si je l'avais, il n'y avait pas eu la télévision, là, j'aurais rien entendu. Tu sais, c'est arrivé, ça a duré, l'événement a duré quoi? Une minute, deux minutes, là, puis après ça, évidemment, le lendemain, on entendait parler par les journaux.
Mais effectivement, pendant les manifestations ici, si on était tout près, ça avait l'air impressionnant, mais aussitôt qu'on s'éloignait un peu, on n'avait plus connaissance de rien. Ceci met fin à la première partie de l'émission. On vous revient dans quelques minutes après la pause. À tantôt.
Pacific. propres munitions. Ne vois-tu pas que si tu ne vois plus rien, c'est que tu te bats contre toi-même. Check.
Le Carniello, toi le Pacifique, et on vous rappelle, si vous achetez l'itinéraire ce mois-ci, vous aurez cet album gratuitement avec un lien de téléchargement.
Bon, ça, donc ça valait la peine de lire l'article tantôt,
oui, ben oui.
On vient d'entendre ce que ça donne, c'est très intéressant. Donc on est de retour à Les Voix de Service Magazine avec Serge qui vient de donner un coup de poing à son micro.
J'ai trop hâte de commencer.
On va essayer de se retenir un peu. Donc on continue avec...
Oui. Alors, toujours de la presse, mais là, il y a une semaine, une collaboration spéciale d'Emmanuel Mozaïan, Verschaivé, j'espère que j'ai bien prononcé, sur la montagne du Mont-Royal. L'espace vert le plus important de la métropole est sans contredit le parc du Mont-Royal, visite de ce lieu emblématique de Montréal d'hier à aujourd'hui. Savez-vous ce qu'il y a de commun entre le Mont-Royal et Central Park à New York?
La superficie, j'imagine, à peu près.
Non? Oui et non,
sûrement
c'est grand.
Pas l'élévation, parce que Central Park, c'est assez
C'est clair. La même personne qui l'a conçu.
Ah oui?
Oui, oui, oui.
Ah,
inauguré le 24 mai 1876, le parc du Mont-Royal a été dessiné par Frédéric Law Olmsted. Donc, le nom, vu le chemin Olmsted qui existe sur Mont-Royal, vient de là. Et considéré comme le père de l'architecture de paysage en Amérique du Nord, cet homme au parcours singulier fut aussi le concepteur du Central Park à New York. Face à une ère d'industrialisation effrénée, il misait sur l'embellissement de la ville et voulait créer un lieu accessible à tous, favorisant le bien-être de la population. Pour le Mont-Royal, Olmsted dessine un circuit de sentiers permettant aux visiteurs d'admirer 8 environnements naturels conçus comme une succession de tableaux. Montréal a investi 1 million de dollars, on est en 1876, pour acquérir et aménager les terrains, c'est une somme colossale pour l'époque. Il y avait un funiculaire.
J'ai déjà entendu parler de ça. Je sais
pas où j'étais
exactement.
La rue Peel.
Okay.
Un funiculaire accédant au sommet du mont est construit en 1885. Non, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas prêté. Et restera en fonction jusqu'en 1918, malheureusement. On parle souvent d'en remettre un, d'ailleurs. On devrait. Deux belvédères y sont aussi érigés, dont celui devant le chalet de la montagne.
On connaît, oui.
Qui s'appelle... À l'époque, qui s'appelle encore le Kondiaronk, le nom d'un chef huron.
Ah, ça, je n'avais jamais
entendu. Mais moi non plus, je l'ai entendu. Je ne sais pas si le nom est encore là.
Tout ce que je sais, c'est qu'on a une très belle vue.
Ah oui, oui, oui. Ça offre une vue spectaculaire sur le centre-ville. Le lac aux castors, un bassin artificiel aménagé en 1938, compte aussi parmi les importants attraits du lieu. En 1987, l'administration du maire Jean Doré a l'intention de déclarer le parc du Mont-Royal site patrimonial et d'établir une réglementation sur la protection des arbres. Une bonne nouvelle et un soulagement pour les organismes et la population montréalaise qui ont à cœur la sauvegarde du parc. Cette décision met fin à de nombreux projets de développement, comme un casino, une tour de transmission et des pistes de ski qui auraient eu un impact très important sur l'environnement. La préservation de la montagne est aussi assurée. La Benjamine des porte-flammes olympiques. C'est depuis le parc du Mont-Royal, Can Jamieson, 15 ans, a transporté au pas de course la flamme des Jeux olympiques d'été de 1976 jusqu'au stade olympique.
Une bonne marche quand même.
Oui.
Ben, au pas de course, ouais, ça va plus vite.
Dernière étape de son voyage depuis Athènes. Pas la jeune fille.
Non, j'espère. Elle avait 15 ans qu'elle a commencé. Oui, elle avait 25 qu'elle a fini.
Mais je me sens qu'elle a pas. Ils étaient deux, il y avait elle puis un jeune garçon.
Ah, OK.
Il me semble. En tout
cas. Son nom n'est pas mentionné. Lui,
ben non, ça, je trouve bizarre. En tout cas. Cette Québécoise originaire de Laval se distinguait au sprint et à la course de haies. L'année 2001 a marqué le 125e anniversaire du parc du Mont-Royal. À cette occasion, la presse a consacré durant 2 mois une rubrique hebdomadaire à l'histoire de cet extraordinaire espace vert. Dans un reportage signé Guy Pinard, dans notre numéro du 12 mai, on souligne notamment que sur le Mont-Royal domine l'érablière à carrier, C-A-R-Y-E-R, incorporant plus particulièrement différentes espèces d'érables, érable à sucre, argenté, rouge de Pennsylvanie, également le noyer, le charme, l'ostrière, O-S-T-R-Y-E-R, le frêne et le carrier. Les chênes rouges occupent le sommet de la montagne, tandis que le bouleau, il en reste de moins en moins malheureusement, peuple l'escarpement. Par ailleurs, on y apprend également que, tenez-vous bien tout le monde, des coupes de moralité, effectuées en 1954, l'administration municipale voulant prévenir les sauteries dans les sous-bois. Voilà.
Jamais faut faire ça.
On causé un tort immense. Et non, je ne suis pas allé dans ces sauteries-là. Bon. J'étais trop jeune. On causé un tort immense au secteur boisé du parc. Dès le printemps suivant, l'érosion endommagera des centaines d'arbres et il faudra reboiser rapidement. Pour ce faire, on utilisera des résineux dénaturant malheureusement ici la forêt initiale. Il y a des courses folles aussi. La deuxième édition de Top Challenge s'est déroulée en août 2004 sous une pluie battante. Cette compétition internationale de descente de luge de rue et de skateboard en a mis plein la vue aux spectateurs.
Voilà.
Et tout à l'heure, peut-être je vous parlerai du parc La Fontaine, parc Maisonneuve, parc Angrignon, si ça vous tente.
Ben oui,
le temps. Voilà.
On va changer de sujet un peu.
Mm-hmm.
Un article que j'ai trouvé dans le Rolling Stone Magazine, une édition du 14 décembre 2017. Un vinyle rarissime de Prince a été retrouvé par un ancien employé de Warner Brothers, son label de l'époque. Une jolie histoire qui rajoute au mythe du Black Album. Prince a mis tellement d'albums sur le marché qu'on pensait que celui-là, c'en était un. Apparemment,
il y en a mis tant que ça sur le marché?
Ah oui, apparemment, il a produit beaucoup. Dans l'histoire du rock, il n'existe aucun autre vinyle plus recherché par les collectionneurs qu'un exemplaire authentique du Black Album de Prince. Fin 1987, Warner Brothers grave environ 500 000 copies de l'album, mais demande finalement à ce qu'ils soient tous détruits. Après que Prince a décidé que cet album était possédé et ne devait jamais sortir. Le label a fait très attention à ce que chaque copie soit bien détruite, allant même jusqu'à demander aux personnes chargées de la promotion de récupérer les exemplaires envoyés en avance afin qu'ils soient broyés. Fin 1994, Prince autorisa brièvement son label à vendre le disque en CD et cassette. Néanmoins, aucune version vinyle ne fut gravée. Seulement 3 copies américaines datant du pressage de 1987 ont déjà refait surface depuis 30 ans. Donc on parle d'un objet assez rare ici quand même. On peut facilement dire qu'il s'agit de l'un des albums les plus rares du monde, explique Jeff Gold, ancien vice-président de Warner Brothers, qui est désormais responsable du magasin Record Maker, si ce n'est le plus rare. Jeff Gold était par conséquent extrêmement sceptique lorsqu'il reçoit un email début décembre lui demandant le prix d'un Black Album toujours scellé. Donc, il n'a jamais été ouvert en plus. « Je me suis immédiatement dit qu'il devait s'agir d'un faux », explique-t-il, « mais j'ai répondu poliment que personne ne pourrait attester de l'authenticité du vinyle autrement qu'en l'ouvrant pour l'inspecter et que presque tous s'étaient malheureusement révélés être des faux. » Mais après quelques échanges, Gold réalisa qu'il correspondait avec quelqu'un qu'il avait connu pendant ses années au sein de Warner Brothers. Cette découverte le convainquit qu'il s'agissait certainement d'un vrai exemplaire. « Je ne pouvais pas le croire. » Quelques minutes plus tard, nous échangeions au téléphone pour la première fois depuis des années. L'histoire que lui raconta son ancien collègue l'abasourdit. La fille de son collègue venait de s'acheter sa première platine et lui avait demandé de lui envoyer quelques vinyles. En fouillant dans des boîtes qui étaient rangées dans un placard depuis 25 ans, il mit la main sur deux enveloppes toujours scellées au nom de Warner Brothers et destinées à des envois promotionnels. À l'intérieur se trouvaient 5 copies du Black Album de Prince en parfait état. 3 d'entre elles furent envoyées à Gold pour être vendues 15 000 $ pièce. Quand même.
Aïe, aïe.
En sachant que tu ne l'ouvriras jamais.
Ben oui,
pour pas qu'il perde la valeur. C'est un petit peu. En tout cas. J'ai
comme,
vendu
c'est comme les bouteilles de vin là, que
ouais,
tu achètes.
Ouais,
que tu,
qui prennent de la valeur tant que tu les ouvres pas, donc tu les ouvriras jamais pour qu'ils prennent la valeur. C'est un peu absurde. J'ai vendu le premier exemplaire en un coup de téléphone. Je suppose que les autres se vendront aussi rapidement. 2 ont déjà été vendus, apparemment. Le responsable de Record Mecca a décidé d'en garder une copie et devrait en vendre une autre aux enchères l'année prochaine. Maintenant que Gold a finalement pu mettre la main sur plusieurs copies du Black Album, il pense se retourner vers un autre disque de Prince encore plus difficilement trouvable. Récemment, 2 pressages test d'un autre album inédit de Prince, baptisé Camille, ont refait surface et se sont vendus pour une grosse somme. On sait peu de choses sur ces vinyles, je suppose qu'il s'agit peut-être de vinyles que Prince avait pressé lui-même et non Warner Brothers, son label à l'époque. Aucun de mes anciens collègues de Warner Brothers ne peut m'en dire plus. Donc, Serge, on continue avec...
Avec les parcs.
Parcs de Montréal.
Eh oui, l'histoire de nos parcs. Le parc La Fontaine, inauguré en 1874 sous le nom de parc Logan. Ça, je ne savais pas.
Ah, moi non plus.
Le parc La Fontaine sera rebaptisé avec son nom actuel en 1901 lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, en l'honneur de M. La Fontaine. Ces étangs sont creusés en 1900 et sont appréciés de tous, y compris des outardes qui ont d'ailleurs élu domicile à quelques jours. En 1997, pouvait-on lire sous la plume de Pierre Gingras dans la presse du 11 octobre. D'ailleurs, petite anecdote, en 1900, on a creusé des étangs. Alors évidemment, au conseil municipal, ils ont dit on devrait mettre quelque chose. Alors quelqu'un a dit on devrait mettre des gondoles.
Des gondoles?
On devrait acheter des gondoles.
OK.
Alors, il y a eu un débat de savoir combien de gondoles on achèterait. Et là, écoutez, on a entendu 1900, c'est pas tout le monde qui a voyagé, pas tout le monde qui connaît l'histoire. Alors, il y a un conseiller qui a dit, ben, écoutez, arrêtez de vous obstiner pour le nombre, là. On va acheter un mâle puis une femelle, puis ils vont se reproduire. Vrai, hein? Véridique. Apparemment, c'est
l'histoire
dans les annales.
L'histoire ne dit pas s'ils se sont reproduits ou non. Des fois,
oui.
En captivité, les gondoles, ça arrête
ça,
oui. De se reproduire.
Oui, oui. Le parc
donné,
maison...
Oui, excusez-moi, ça a donné des pédalos.
Ah, c'est ça,
oui. Ça qui est arrivé.
Le parc Maisonneuve. Remontant au début du 20e siècle, ce parc est aussi connu pour son golf, aménagé en 1925. Le golf a été un peu raccourci, je pense, avec, avec les installations olympiques.
Ouais.
Il a été profondément transformé par l'implantation d'installations olympiques dans les années 70. Le parc en Grignon. Ce parc inspiré des jardins anglais du 19e siècle offre aux promeneurs une forêt de 20 000 arbres, des sentiers sinueux et un étang entouré de quenouilles. Il a hérité des animaux du Jardin des Merveilles. Ça, j'avoue, je l'ignorais.
Ah.
Qui était situé au parc La Fontaine. Je ne savais pas du tout qu'il y avait encore des animaux là-bas.
Des animaux, genre des écureuils.
Mais... Ah, ouais, non, mais c'était assez... non, il y avait des... je ne me souviens pas trop, mais il y avait des animaux. Ah. Qui a fait le bonheur des Montréalais dans les années 60. Le parc Jean Drapeau. Composé des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, le parc Jean Drapeau accueille une programmation culturelle et sportive diversifiée. On y trouve la biosphère, Casino de Montréal, Circuit automobile Gilles Villeneuve, le parc d'attractions La Ronde et la plage Jean Doré notamment. Le parc Jarry, ouvert en 1960, c'est le dernier grand parc. Ce parc destiné aux matchs de baseball fut le domicile des Expos de Montréal de 1969 à 1976. Après les Jeux olympiques, l'équipe montréalaise a déménagé ses pénates au stade olympique. Après diverses utilisations, l'endroit est devenu le stade Dumouriez, puis le stade Uniprix, où est présentée chaque année la Coupe Rogers du tennis professionnel. Et évidemment, il y a eu à un moment donné une grande cérémonie au parc Jarry pour le pape, je pense.
Pour ouais, Jean-Paul II. Ça me dit quelque chose, mais
ouais.
Ça vague un peu.
Oui, ben moi aussi, c'est... Céline Dion avait chanté au stade olympique. Mais au parc Jarry, il y avait une grande messe ou quelque chose, oui. Ouais.
Oui, ils ont même rebaptisé pas très longtemps le parc Jean-Paul II.
C'est vrai.
Il y a eu controverse, puis c'est redevenu le parc Jarry.
Ouais, c'est vrai, oui. Alors maintenant, toujours dans la presse, cette presse plus d'il y a une semaine, il y avait toujours collaboration spéciale d'Emmanuel Mozaillant Verschavé, le Montréal Berceau.
Une astuce pour ne pas le prononcer.
Oui. Montréal Berceau culturel. La vie artistique de la métropole a toujours été bouillonnante. La preuve, elle réside notamment dans les nombreuses institutions culturelles qui ont pris racine. Talentueux, créatifs, avant-gardistes, les artistes québécois ont créé et présenté à Montréal des œuvres et des événements marquants. Ah, voici un bref tour d'horizon. Évidemment, les Belles-Sœurs. Mm-hmm. Le Joual, pour la première fois sur scène, c'est vraiment un événement marquant. Les pièces étaient jouées avant ça en français de France, français classique. L'histoire de cette pièce mythique jouée pour la première fois en 1968 au Théâtre du Rideau Vert se déroule dans la cuisine de Germaine, qui a invité 14 femmes à coller le million de timbres primes qu'elle a gagné lors d'un concours. Il s'ensuit des discussions houleuses, de la jalousie et des frustrations. Bien que traitée sur un ton humoristique, cette œuvre reste un drame dépeignant les conditions de vie difficiles de ces femmes issues de milieux modestes. Cette pièce est la première à avoir recours au joual, ce qui provoqua une polémique à l'époque. Ça, je me rappelle bien.
Mais, je me souviens vaguement, mais Gratien Gélinas, les pièces qu'il écrivait, c'était pas en joual,
C'était en, on peut dire en québécois, québécois, mais c'était pas en joual.
Ouais, il faisait attention quand même.
Oui. Non, il y avait une recherche dans le. Ouais. Parce que les pièces de Tremblay, quand vous arrivez au dialogue, faites le test pour vraiment les comprendre. Il faut que tu les lises à voix basse.
Ouais.
Et alors que le Gratien Gélinas, tu vas le lire, mais sans le dire à haute voix. Depuis, cette pièce a été traduite en plusieurs langues et elle est toujours à l'affiche dans divers pays. D'ailleurs, actuellement, RTV, moi j'ai vu récemment Les Belles-Sœurs en comédie musicale. Très bon. L'OSM et l'Orchestre métropolitain, l'OM, des ambassadeurs culturels de premier plan, on vient de le voir avec l'Orchestre métropolitain qui a fait une tournée d'ailleurs en Europe. Fondé en 1934, l'Orchestre symphonique de Montréal a acquis une notoriété enviable dans le monde entier. Depuis sa création, il a vu passer 8 directeurs musicaux, de Wilfrid Pelletier à Kent Nagano en passant par Charles Dutoit. Charles Dutoit a fait beaucoup d'enregistrements d'ailleurs, il a commencé les enregistrements... avec l'OSM. En 2011, l'orchestre prend possession de sa nouvelle résidence, la Maison symphonique de Montréal. 3 ans plus tard, on inaugure le grand orgue de Pierre Béhic, du nom de l'un des fondateurs de l'OSM, l'un des plus grands orgues à traction mécanique du monde. À l'instar de l'OSM, l'Orchestre métropolitain fait rayonner la musique symphonique depuis 1981 au Québec et à l'étranger. Son directeur artistique actuel et chef principal, le réputé Yannick Nézet-Séguin, est l'un des chefs les plus demandés au monde. D'ailleurs, M. Nézet-Séguin va devenir d'ailleurs directeur du Metropolitan Opera, c'est quelque chose.
Grosse promotion.
Les premiers pas du cinéma au Canada. La première présentation publique d'un film au Canada se tient à Montréal en 1896. Maurice, vous y étiez, je pense, hein?
Non, mais je l'ai entendu parler.
Mais je me souviens que le popcorn n'était pas...
Pas Louis Vassascope.
C'est aussi dans cette ville que la première salle... Non, c'était pas au Metascope. C'est aussi dans cette ville que la première salle de cinéma, le Metascope, ouvre ses portes en 1906.
Ah,
rue Sainte-Catherine.
Ah, ouais.
Je pense que le premier endroit, ça a passé au feu, là, c'était sur Saint-Laurent, tout près de Vigée. Ah. Ça a passé au feu il y a un an ou deux. C'était plus un cinéma, mais c'était là avait lieu la première représentation. Son fondateur du Metascope, Louis-Ernest Ouimet, pionnier du cinéma québécois, réalise lui-même des films dont quelques-uns connaîtront un certain succès. Le 7e art gagne progressivement du galon et les lieux de projection se multiplient dans la métropole. Des salles iconiques comme l'Impérial, le Théâtre Outremont et le cinéma Beaubien ont fait les beaux jours des cinéphiles montréalais. Au fil des ans, la métropole voit apparaître quelques festivals consacrés au cinéma, dont le Festival des films du monde en 1977. Après son âge d'or dans les années 80-90, il voit progressivement son étoile pâlir au profit du Festival international du film de Toronto. Le Refus global, ça vous dit-tu quelque chose?
Ouais,
oui, oui. Le manifeste Refus global est paru en août 1948. Mis en œuvre par Paul-Émile Bordua et Fernand Leduc, l'ouvrage est signé par de jeunes artistes qui décrit le conservatisme de la société québécoise politique, on est en pleine époque dupléciste, et religieuse d'alors. 65 ans plus tard, le journaliste Éric Clément demandait à Fernand Leduc si une telle prise de position serait possible et utile de nos jours. Il a répondu « On a toujours besoin de refaire les choses, mais ça, je ne vois personne en ce moment pour le faire. On vit dans le mou aujourd'hui, la langue fout le camp et on se laisse faire gentiment. Mais il y a des énergies latentes, il faut juste qu'elles puissent se manifester. » Festival international de jazz de Montréal, qui est un incontournable, fondé en 1980 par Alain Simard et André Ménard du FIJM, est devenu un rendez-vous incontournable des musiciens et amateurs de jazz. Ayant présenté une poignée de spectacles à ses débuts, le FIJM en propose aujourd'hui plus de 600, avec 3000 artistes venus de 30 pays et 2 millions de visiteurs. Le guitariste américain Pat Metheny, vous connaissez sans
oui,
doute.
Absolument. Oui, absolument. Pas personnellement, mais non. Je sais qui.
Metheny a participé à presque toutes les éditions du FIJM avec les sur une tablette des fois
trop
ça
de,
se
de,
promène.
De, ouais. Ouais, trop de...
Sa prestation du 4 juillet 1989 demeure dans la mémoire des festivaliers alors que 100 000 personnes assistaient à ce spectacle mémorable sur l'avenue McGill College. Céline chante pour le pape. En septembre 1984, c'est là qu'on a baptisé le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II est en visite à Montréal et Céline Dion, qui n'a alors que 16 ans, chante une colombe devant le souverain pontife et un public de 65 000 personnes. Les images de cette jeune interprète, alors peu connue, feront le tour du monde. Un centre, il y a l'Hostitcho.
Oui, ça, je me souviens.
Oui. ton Hostitcho. Fourtoilé dans le cul.
Ça,
excusez,
c'était
là,
Paul Buissonneau qui
texte,
avait dit ça.
Oui, ça, c'est le
oui,
texte. Je peux pas le... je cite.
Mais d'ailleurs, le style show, c'était écrit O-S-T-I-D-C-H-O, quelque chose comme ça.
Oui, L'apostrophe O-S-T-I-D-C-H-O.
Oui, OK.
Et lui, Buissonneau dit ton Hostitcho.
C'est de là que le titre est venu.
Oui, de ces vertes paroles adressées à Robert Charlebois par Paul Buissonneau, propriétaire du théâtre de Quatre-Sous, le spectacle devait avoir lieu quelques jours plus tard, est né le nom de l'événement. Ah ben. L'Hostitcho. Buissonneau est excédé d'avoir à gérer la troupe de chanteurs indisciplinés que constituaient Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Mouffe. En cette période mouvementée de mai 1968, 30 représentations ont été données au théâtre de Quatre-Sous, puis d'autres à la Comédie-Canadienne en septembre, puis à la Place des Arts en janvier 1969. Ce spectacle est profondément ancré dans les mémoires collectives des Québécois.
D'ailleurs, c'est là que Yvon Deschamps aurait commencé à faire ses monologues.
Oui, exactement. Oui,
du
oui,
show,
oui, oui.
Mais ça devait oui. être des sketchs. Oui. Et à un moment donné, les autres ont dit arrange-toi avec ça.
Oui,
on
oui,
peut
oui,
pas
oui,
jouer
oui.
là-dedans. Donc, oui, il s'est oui. retrouvé tout seul à faire ses textes. Il est devenu monologuiste à oui, ce moment-là. Oui, ça a été un bel accident de parcours.
Ben oui, oui. D'autres encore?
Oui, oui. D'autres,
on a. Que je peux vous lire? La messe des morts d'Offenbach. En 1972, l'oratoire Saint-Joseph reçoit un invité improbable, le groupe Offenbach, qui va bousculer les traditions en jouant une messe des morts, mélangeant musique rock et chant liturgique. Si l'événement a choqué une partie de la population, il sera immortalisé par l'album Synchrone de Néant. Oh l'œil. C'est l'album Synchrone de Néant. Ben. L'innovant Cirque du Soleil, créé en 1984 par les artistes de rue Guy Laliberté et Daniel Gauthier, le Cirque du Soleil se démarque par une approche contemporaine, donnant un rôle central à ses acrobates, ses comédiens, et en proposant des numéros sans animaux. Allegria est sans doute le spectacle le plus emblématique du Cirque du Soleil. Sa musique légendaire, ses costumes somptueux et bien sûr, Ces artistes extraordinaires ont émerveillé plus de 14 millions de spectateurs dans le monde. C'est quelque chose.
C'est quand même un événement.
Dans plus de 250 villes sur une période de 9 ans. En 2015, Guy Liberté vend la majorité de ses actions à des fonds chinois et américains.
Après être allé dans l'espace quelques 35 millions de dollars. Ça met fin à l'émission Les Voix de Service Magazine du 20 décembre. Merci beaucoup, Serge Bradet. Merci, Maurice, à la régie.
Et merci à vous, Daniel.
on va vous souhaiter des joyeuses fêtes parce que pour nous, ça se termine ici pour l'année, pour l'année, dans le fond.
Oui. Tristement.
Il y aura d'autres émissions demain et vendredi, pour nous, c'est fini. Donc, on se retrouve, nous, le 3 janvier. Mais pas vous, Serge, parce que vous serez en vacances.
Oui, je serai en vacances. Oui.
Donc, je serai de retour avec Isabelle.
Et d'ailleurs, j'ai le temps de dire, dans la période des fêtes, vous aurez 3 émissions spéciales d'1h30 pour des chants de Noël. Noël d'antan, Noël des années 50, Noël de rétro.
On va écouter
et
ça.
Et Noël avec chanteur d'opéra.
Merci beaucoup. À la prochaine.